241,1. Ce chiffre ne vous dit sûrement rien, mais il s'agit du nombre de décès en Nouvelle-Aquitaine lors du 20 janvier 2024, journée la plus meurtrière de l'année qui vient de se passer, selon l'INSEE. Cela est certes un peu morbide, mais je tiens à vous souhaiter la bienvenue pour ce nouvel épisode d'Histoire en Onde, centré aujourd'hui sur diverses morts absurdes à travers l'histoire. Je suis comme à mon habitude accompagné de Thiao Arnay.
Je suis pilote.
Et donc Thiao, de qui allez-vous nous parler pour commencer aujourd'hui?
Eh bien, je vais vous parler d'un certain roi dans une zone géographique que nous n'avons pas encore abordée, la Birmanie médiévale, plus particulièrement le royaume de Pagan au Xe siècle, et de son roi de 934 à 956, le roi Tengku. Celui-ci est le fils du roi précédent, un certain Saleh Ngauke, mort aux alentours de 934. Son règne n'est connu que pour une chose, sa fin. Au risque de vous décevoir, la mort en elle-même n'est pas des plus insolites, mais ses conséquences, si. Le roi Tengku, un jour, aux alentours de 956, rentrant dans une bataille avec un royaume voisin, donc avec ses hommes, se serait arrêté et aurait perdu sa compagnie. Assoiffé et affamé, Tengku se serait alors arrêté dans un champ de concombres appartenant à un certain fermier du nom de Niang ou Saurahan, afin de peut-être manger quelque chose. Le fermier, mécontent de voir un homme voler un de ses concombres, tua le roi. Donc bon, déjà c'est assez insolite comme ça, mais ça le devient encore plus, écoutez donc. Afin d'éviter une crise dans le royaume, la reine consort et l'entourage du roi décident de mettre Niang ou Saurahan sur le trône, connu ainsi par la postérité comme le roi concombre. Il est bon de noter cependant que cette histoire est sûrement inventée. Cette version, présente dans les chroniques royales du Myanmar, n'est pas la seule, et plusieurs versions entrent en conflit. Sur une autre note, des personnages importants qui meurent à cause de leur recherche de nourriture ou de boisson, ça arrive, et plus souvent que vous ne le pensez. Par exemple, Bertrand du Guesclin, connétable de France sous le règne de Charles V à la fin du XIVe siècle, vainqueur de Cocherel, celui qui aurait pu nous faire remporter la guerre de Cent Ans en une trentaine d'années, meurt en 1380 en commandant le siège de Châteauneuf de Randon face aux grandes compagnies anglaises. Pas de mort au combat, non, le connétable meurt après un assaut sous la chaleur de juillet, après avoir consommé de l'eau trop froide, provoquant une pneumonie ou une dysenterie menant à la mort du connétable du Guesclin.
Eh bien, dites-moi, après avoir parlé donc de mort liée à la soif, auriez-vous une petite fin? Eh bien, parce que les personnages dont je vais vous parler ont connu une fin tragique, sans mauvais jeu de mots. Il s'agit là de deux empereurs du Saint-Empire romain germanique, Frédéric III et Maximilien Ier de Habsbourg, un père et son fils, dont la gourmandise les a menés à leur perte. Frédéric III, empereur de 440 à 493, est un souverain au règne interminable, celui qui dote sa maison de sa devise et qui pose les bases de la domination des Habsbourg sur le Saint-Empire. Mais ce que l'histoire officielle mentionne moins, c'est son amour immodéré pour le melon. Déjà affaibli par l'âge et la gangrène qui ronge sa jambe, il aurait, selon certaines sources, succombé à un excès de ce fruit sucré, provoquant une indigestion fatale en plein été 1493. Son fils et successeur, Maximilien Ier, pourtant fin stratège et organisateur méticuleux, ne tirera aucune leçon de la fin peu glorieuse, sans mauvais jeu de mots toujours, de son père. Passionné par les rituels chevaleresques et les banquets, il développe à son tour une obsession pour le melon, qu'il considère comme un mets impérial digne de sa grandeur. Mais l'excès est fatal. En janvier 1519, après un repas où il aurait abusé de ce fruit, il est frappé par une crise intestinale violente qui précipite son décès. Ainsi, deux des plus grands empereurs des Habsbourg furent vaincus non pas par la guerre, non pas par la maladie, mais par une consommation excessive de melon.
Chose marrante, Charles Quint, petit-fils de Maximilien Ier de Habsbourg, roi d'Espagne, Charles Quint est donc roi d'Espagne par sa mère, et empereur du Saint-Empire par son grand-père paternel, Maximilien Ier de Habsbourg, dont il est le direct successeur. Charles Quint, c'est le fils de Philippe Ier, appelé Philippe le Beau. Bon, il suffit de regarder un portrait pour se rendre compte qu'ils étaient très forts en moquerie. Et donc Charles Quint a envoyé en 1519 une expédition menée par Hernán Cortés afin de s'emparer de l'empire aztèque au nom du roi. En 1521, après avoir pris en otage l'empereur aztèque Moctezuma, et alors qu'il est soutenu par le peuple des Tlacaltèques, autant pour moi, peuple dissident des Aztèques, Hernán Cortés décide de placer le siège sur la capitale Mexico, appelée à cette époque Tenochtitlan, dirigé alors par l'empereur aztèque Cuauhtémoc. N'ayant à porter avec lui que des canons, le conquistador décide de se doter d'un trébuchet. Ayant peu de connaissances en polyorcétique et plus particulièrement dans la création d'armes de siège, les troupes de Cortés utilisent la main-d'œuvre Tlacaltec, toujours pas, et les matériaux dont ils disposent. Ce qui devait arriver arriva. Le premier jour de l'utilisation du trébuchet est un jour funeste pour l'armée d'Hernán Cortés, ou du moins pour les deux soldats opérant la machine du siège. À sa première utilisation, en effet, le trébuchet lance son projectile à la verticale, retombant directement sur l'engin, le détruisant sur le coup et tuant les deux opérateurs de la machine. L'anecdote paraît irréelle et paraît beaucoup trop folle pour être arrivée, et pourtant elle est racontée froidement par Cortés lui-même dans son rapport de la première journée, mais aussi dans une correspondance. Le reste du siège tourne, ceci dit, malgré cet échec cuisant de machines de siège, le reste du siège tourne en faveur des Espagnols qui prennent la ville. Le dernier empereur aztèque s'enfuit de la ville et c'est la fin de l'Empire aztèque.
Alors on parle de bataille, de la mort de ces pauvres ingénieurs pas très chanceux, hein, mais en ce qui concerne la mort de Louis de Bourbon-Soissons, je pense qu'il s'agit plutôt de maladresse. Prince du sang du début du XVIIe siècle, né en 1604, il était le fils de Charles Bourbon de Soissons et le cousin du roi Louis XIII. Son nom restait lié aux intrigues et aux luttes de pouvoir de son époque, notamment son opposition au cardinal de Richelieu. Mais si son parcours politique est intéressant, c'est surtout sa fin qui vaut d'être racontée. En 1641, Louis de Bourbon-Soissons prend la tête d'une révolte contre le cardinal, soutenue par l'Espagne, et d'autres nobles mécontents. Le conflit culmine à la bataille de Lamarfé, près de Sedan, le 6 juillet 1641. C'est là que le prince trouve la mort. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne tombe pas glorieusement sous les coups de l'ennemi, en pleine mêlée, lors d'une charge glorieuse au nom de ses principes, ou encore sur les remparts d'une forteresse. Non. Celui qui manque de gagner la bataille, hein, parce qu'il est même très très proche de vaincre les troupes royales, il meurt d'une balle, et pas n'importe laquelle, puisque ce très cher prince du sang avait la très simple habitude de relever la visière de son home à l'aide de son pistolet. Chose qui lui sera fatale, puisqu'à un malheureux coup, parti. Alors, un destin ironique pour un homme qui voulait renverser Richelieu, et qui, au final, se retrouve victime d'un malheureux accident. Une mort à la fois banale et absurde, pour un prince du sang, qui finit par n'être qu'une note de bas de page dans l'histoire tourmentée du grand siècle.
Comme on dit, cette histoire a dû lui faire perdre la face. Autre personnage royal mort sans hommage, Adolphe Frédéric de Holstein-Gottorp, roi de Suède de 1751 à 1771. Au début de sa vie, celui-ci n'a aucune prétention sur le trône de Suède, ou alors très peu. Celle-ci arrive quand le roi Frédéric Ier de Suède semble ne pas donner d'héritier au trône. Des élections ont alors lieu entre les aristocrates de l'Europe de l'Est afin de trouver le prochain roi de Suède. Adolphe Frédéric est ainsi choisi sous l'influence de la famille impériale russe, connectée de très près au Holstein-Gottorp. En effet, le cousin Adolphe Frédéric est marié à la sœur de la tsarine, et c'est aussi le père du futur Pierre Ier, qu'on connaît plus pour être le mari de Catherine la Grande. Bon, quoi qu'il en soit. Les 20 ans de règne de notre bonhomme sont marqués, notamment, par ses tentatives d'augmentation du pouvoir royal face au Parlement. Chose à laquelle il échoue. Un beau soir de février 1771, le roi, alors âgé de 60 ans, s'adonne à un copieux dîner, qui lui est fatal. Durant ce repas, Adolphe Frédéric engloutit du caviar, du homard, du hareng, une soupe de choux et d'autres mets, le tout arrosé d'énormément de champagne, et surtout, il mange beaucoup, beaucoup, et je dis bien beaucoup de desserts. Il reprend en effet 14 fois de son dessert favori, le semla, brioche traditionnelle scandinave, comparable à notre Paris-Brest en quelques points, qui est normalement consommé les jours de Mardi Gras. Eh bien, Mardi Gras, il en est. Le roi meurt d'indigestion dans la nuit. Une histoire tout en finesse, pouvant rappeler à certains le sketch des Monty Python, le sens de la vie.
Eh bien, moi je vais vous parler d'un autre prince français, dont la fin est pour le moins tragique. Louis VI de Bourbon-Condé, duc de Bourbon, au début du XIXe siècle. Celui-ci, le fils de Louis V de Bourbon-Condé, est né en 1756. Son existence, bien que marquée par son engagement dans la guerre révolutionnaire contre la France républicaine, est surtout connue pour sa fin brutale. Nous sommes en 1830, en plein cœur de la monarchie de Juillet, récemment instaurée après l'abdication de Charles X. Louis VI, farouchement légitimiste, s'oppose à ce nouveau régime. Dans la nuit du 26 au 27 août, on le retrouve d'ailleurs pendu à l'espagnolette de la fenêtre de sa chambre, au château de Saint-Leu. Suicide ou assassinat, Eh bien, le débat fait rage. Certains y voient la main des partisans d'Orléans, hein, d'autres un acte désespéré d'un homme acculé. Mais il n'en est rien, puisqu'il semblerait, contre toute attente, que cette mort soit plutôt animée par un vice plus simple encore. Et je vous le donne dans le mille, la passion pour la chair. En effet, ce très cher Louis VI semble avoir succombé d'une strangulation auto-érotique, mal exécutée, avec pour preuve la découverte de son cadavre, le pantalon sur les chevilles.
Une histoire qui ne manque pas de mordant, donc. Et en parlant de mordant, laissez-moi vous parler du roi Alexandros Ier de Glücksbourg, roi des Hellènes, donc de Grèce, de 1917 à 1920. Fils du roi Constantin Ier, il succède à son père après la déposition de celui-ci par des puissances étrangères, donc en 1917, comme la France, en conséquence de sa politique germanophile durant la Première Guerre mondiale. En effet, Constantin ne voulait s'engager sur aucun plan. Son premier ministre, que l'on va voir un peu plus tard, lui disant de s'engager auprès de la France, de l'Angleterre, bref, de l'Entente, et lui... et penchant plus du côté de Wilhelm Ier, un de ses cousins d'ailleurs. Le règne d'Alexandre Ier, donc, est considéré par beaucoup comme une parenthèse dans l'histoire grecque contemporaine, n'ayant pas de vrai pouvoir et servant plus de monarque fantoche au Premier ministre, qui était aussi Premier ministre de son père, Eleftherios Venizelos. L'histoire qui nous intéresse ici se déroule cependant à la fin de son règne, 3 ans plus tard, en septembre 1920, donc règne assez court. Alexandros, alors âgé de 27 ans, se balade dans les jardins du palais de Tatoï, dont le domaine fait littéralement 3000 hectares, je ne sais pas si on peut se rendre compte, avec son berger allemand. Le chien royal décide alors de s'embarquer dans une rixe avec un des animaux de la ménagerie du domaine, un macaque de Barbarie, appartenant à l'agronome de la cour, qui en avait plusieurs. C'est important pour la suite. Le roi tente de séparer les deux animaux, mais un deuxième macaque apparaît alors sur les lieux, acculant le roi et le mordant à plusieurs reprises, au mollet, au bras, un peu partout sur le côté gauche. Le roi est ramené au palais, alors, et soigné, mais ses blessures s'infectent 3 jours plus tard. Il meurt, enfin, atteint par la gangrène et la septicémie, 22 jours après le début de l'infection, en fin octobre 1920, laissant de nouveau le trône à son père Constantin Ier, la boucle est bouclée.
Et c'est sur cette mort, ma foi un peu mouvementée, que nous terminons cet épisode. En espérant que cela vous ait plu, nous nous retrouvons dans 2 semaines pour le prochain épisode qui parlera quant à lui de l'histoire des micronations à l'effigie de Sealand ou encore de l'Empire américain. En attendant, nous vous souhaitons un bon week-end et surtout n'oubliez pas,
l'histoire c'est vieux, c'est fin et ça se mange sans fin.